ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. Et ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement d'avoir un bien-être. D'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et a développé un goût. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée. Et ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent alerter?
Oui, on peut ne pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des plaisirs venant de l'extérieur, qui les pousse à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est, il est plus compétitif que l'autre, il est plus efficace que l'autre, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, les femmes. Ce sont des facteurs qui poussent les jeunes à vouloir prendre des drogues. Ils se disent, il faut que j'aille démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est d'un. De deux, l'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je développe un courage au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut-être agresser casser une banque, casser, je sais pas moi, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son garçon, son petit gars, et il ou elle se jette pieds et poings liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût au départ, c'était simplement une expérience qu'ils voulaient expérimenter, une expérience qu'ils devaient avoir, basée sur un conseil d'un ami qui leur a dit, voilà, essayons par exemple ci ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue?
Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame. Je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Et le médecin va vous dire que c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais illégalement, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis ils s'y lancent et puis ils commencent à les prendre. Les opioïdes, par exemple, Sébastan, méthamphénopine. Ces opioïdes, ces médicaments sont très dangereux et ça a des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre deux dimensions parce que quand nous faisons les évaluations psychologiques de ces personnes déjà addictives des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur la base de 6 étapes, c'est-à-dire que 6 modèles ou 6 sessions. Nous commençons généralement par évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques qui sont associés, n'est-ce pas, à cette prise de stupéfiant par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsque nous l'avons évalué, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok, on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique. C'est-à-dire que la dimension psychologique, c'est-à-dire cognitive, ou bien comportementale, ou bien même émotionnelle. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire net. Voyez-vous, il n'a plus un sourire adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux commencent à être larmoyants, le comportement psychomoteur est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et ça, l'évaluation peut nous pousser à consulter un psychiatre pour une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
Est-ce qu'il y a des options de traitement pour venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue? On précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
Bien sûr, c'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Nous l'attaquons, c'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques que le client, le sujet ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Quels sont les médicaments que le sujet doit prendre au cas où il y a une chronicité, c'est-à-dire que cette stupéfiant ont développé dans son corps, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de l'évaluation cognitive, comportementale et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue illégale est une condition psychologiquement entamée. Et nous nous rassurons que s'il a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement va évoluer vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, docteur, quelle est la couche de la population la plus exposée à la prise illégale des stupéfiants?
La réponse à cette question est vraiment... C'est une très bonne question. Hein. Nous dirons que... généralement, ce sont les hommes qui sont la couche la plus atteinte. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi les femmes, hein, les femmes qui sont clairement engagées. Je vais vous dire ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'alcool est la première drogue qui détruit l'humain. Tout à l'heure, vous parliez de drogue illégale. Nous savons que l'alcool est même illégal. Elle est même proscrite dans certains pays. Malheureusement, nous savons que dans certains pays où même l'alcool est proscrit, c'est dans ce pays qu'on trouve une vaste majorité des consommateurs de l'alcool ou des drogues stupéfiantes. Et comme je disais, l'alcool détruit le cerveau. À l'instant où vous commencez à prendre l'alcool de façon exagérée, je vous ai dit au départ en définition que les stupéfiants ou ces drogues-là, l'individu, au départ, ne va pas les prendre, ne les prend pas, n'a pas l'envie de les prendre tout simplement parce que il veut se détruire. Voyez-vous? C'est d'abord parce que il veut chasser un stress, il veut traiter son mental. C'est-à-dire qu'il veut se réjouir, il cherche une bonne humeur, il cherche une relaxation, il cherche à être content. Mais c'est la reprise, c'est l'exagération, c'est l'extravagance de la prise de ces médicaments qui développe donc maintenant un comportement psychologique inadéquat, et d'où les différentes dimensions de traitement dont je vous ai parlé plus haut.
Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes?
La prévention passe par la responsabilité de l'État à réduire la vente ou alors réduire l'accès de ces stupéfiants aux jeunes. Je sais, ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie, mais c'est une responsabilité néanmoins. Si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille à ce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite. La répression va intervenir. Mais je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça c'est un moyen aussi important. Quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des inaptitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins. Et il en existe cinq. On en existe cinq niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Maintenant, l'autre point de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu, rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur, et il va vous guérir, parce que Dieu guérit, je crois que Dieu guérit aussi les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'addiction. Au Nigeria, la toxicomanie est un problème majeur chez les enfants et les adolescents. Les experts tirent la sonnette d'alarme sur certaines habitudes telles que l'utilisation excessive de l'Internet qui peut créer la dépendance. Un navire hôpital de la Chine offre des soins de santé gratuits à travers l'Afrique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'addiction peut affecter femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes. L'addiction, c'est dépendre d'une substance ou d'une activité sans réussir à arrêter. Cela peut avoir des conséquences graves sur la santé. On peut développer une dépendance à une substance telle que l'alcool ou la drogue, mais également à une activité telle que le jeu de hasard et d'argent ou l'utilisation excessive d'Internet. Partons au Nigeria, où plus de 14 millions de personnes consomment des drogues de manière abusive, selon les statistiques de l'Agence nigériane de lutte contre les stupéfiants. Certaines victimes sont des enfants et des adolescents. Alassane Bala nous en dit plus depuis Kano, au Nigeria. Le récit est de Michel Joseph.
New Road, dans le quartier Sabangari de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, est un endroit où les adultes et de nombreux adolescents viennent fumer des drogues comme le cannabis ou inhaler des substances aussi connues sous le nom de gomme ou cholisso. Ibrahim Idriss, 13 ans, consomme du cannabis et une substance inhalée appelée solution. Il a été admis dans un centre de réadaptation il y a 6 mois, mais il a replongé dans le monde de la drogue.
Je me plais ici. En fait, tout ce que vous voyez ici s'y plaise. Aucun d'entre nous ne peut quitter cet endroit. Même si vous nous amenez chez nos parents, nous devons revenir parce que nous aimons cet endroit.
Mais Kumatu, 11 ans, veut simplement retrouver sa famille.
Je veux que quelqu'un me ramène chez mes parents. Je suis sûr que même ma mère m'a oublié ou qu'elle pense que je suis mort maintenant. Je fume du cannabis.
Selon l'Agence nationale de lutte contre la drogue, plus de 14 millions de Nigérians consomment de la drogue, principalement le cannabis. Le manque de centres de désintoxication au Nigeria a incité Abubakar Shuaibu Maitumaki, militant anti-drogue basé à Kano, à construire un centre privé destiné principalement aux mineurs. Ancien consommateur lui-même, Matou Maki explique pourquoi certains jeunes Nigérians se tournent vers la drogue.
La principale raison pour laquelle les toxicomanes nigériens retombent dans la drogue est double. La première est le manque de conseils et de formation de la part des parents. Et la deuxième est la pauvreté dans de nombreux foyers.
Les deux fils de Mohamed Awal Imrana, âgés de 16 et 18 ans, sont des toxicomanes. Selon lui, les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants à la drogue, mais continuer à essayer de les aider.
J'ai deux fils toxicomanes. Je les ai rapprochés de moi et cela m'a aidé. L'un a arrêté et l'autre a réduit sa consommation.
L'Agence nigériane de lutte contre la drogue indique qu'au cours des trois dernières années, elle a saisi 7,6 millions de kilogrammes de drogues illicites telles que la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine et le cannabis. Elle a aussi gagné des procès contre des trafiquants, selon son porte-parole Femi Babafemi.
Si l'on considère également le nombre de poursuites, l'agence a poursuivi et fait condamner plus de 9000 personnes.
Selon un rapport des Nations Unies datant de 2021, le Nigeria comptera 20 millions de toxicomanes d'ici à 2030. Mais Ibrahim Idriss et certains de ses compagnons de consommation ont d'autres projets. Ils disent espérer obtenir de l'aide et retrouver une vie saine.
Avez-vous déjà été confronté à une forme d'addiction? Et quel est, selon vous, l'aspect le plus difficile à surmonter dans une dépendance? Voici quelques réactions d'Addis Abeba en Éthiopie.
La première fois que j'ai commencé à consommer les substances, c'était à la mort de ma mère. J'ai perdu espoir après sa mort et cela m'a conduit à devenir dépendant. Cela fait 16 ans que j'ai commencé à mâcher du crack et à fumer des cigarettes. L'une des raisons pour lesquelles je reste dans la dépendance est la communauté dans laquelle je vis. C'est le principal facteur. Il n'y a pas d'emploi ou d'opportunité d'emploi dans mon quartier.
J'étais un drogué. Grâce à Dieu, je me suis retrouvé et je suis désormais assaini. J'avais des problèmes familiaux qui me mettaient en colère, ce qui m'a conduit à devenir dépendant de beaucoup de choses. Je peux aussi dire que le quartier dans lequel je vivais encourageait ce genre de comportement. J'ai surmonté cette dépendance grâce à l'église et au bain d'eau bénite.
Je suis devenu dépendant sous l'influence de mes amis. Nous travaillons ensemble à bord d'un minibus. Chaque jour, après le déjeuner, il achetait du cat et disait que cela nous aidait dans notre travail.
J'étais en prison et c'est là que j'ai commencé à fumer. Après ma libération, ma vie n'a pas été facile. Je n'ai pas retrouvé dans ma famille ce que j'attendais d'elle. Je me suis mis en colère et c'est ainsi que j'ai commencé à mâcher du cat. J'ai également continué à fumer des cigarettes. Il est très facile de tomber dans la dépendance, mais il est beaucoup plus difficile d'en sortir.
Le docteur Francesco Leary est professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Guelph en Ontario, au Canada. Il explique certaines des causes sous-jacentes de l'addiction et comment y faire face.
Les dépendances les plus courantes sont généralement liées à des substances. En effet, les drogues ont la capacité de prendre le contrôle des systèmes cérébraux qui sont conçus pour nous permettre d'apprendre à connaître les stimuli importants de l'environnement, rechercher ces stimuli, interagir pour les utiliser, les consommer, planifier la manière d'obtenir ces stimuli, penser à la nourriture, par exemple, penser à l'eau. Nous avons donc ces systèmes dans notre cerveau qui sont conçus pour nous faire apprendre, suivre et rechercher ces stimuli, et les drogues d'abus sont très puissantes pour activer ces systèmes et, d'une certaine manière et dans certaines situations, prendre le contrôle de l'environnement. Et les gènes interagissent pour créer le substrat psychologique de la personne. Et puis, bien sûr, il y a les expériences avec les drogues, l'âge, le type de drogue et les médias sociaux, évidemment, et le milieu familial. Ce n'est pas nécessairement la dépendance en soi, mais des caractéristiques particulières qui peuvent prédisposer certains individus. individu à développer un état qui correspond à une dépendance à une substance. Je pense donc qu'il est probablement plus utile de penser à la santé mentale de manière générale, même au sein d'une catégorie particulière d'alcoolisme. Il y a des différences dans la manière dont les gens réagissent au traitement et dans leur prédisposition à tirer profit au maximum du traitement. Si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que nous aurions les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Arrêtez de boire, vous arrêtez de boire, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. La grande majorité des individus réchutent. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'est la drogue, les statistiques indiquent que 70% des personnes réchutent en général dans les 2 mois. Je veux dire qu'il peut y avoir des variations d'une étude à l'autre, bien sûr, mais la réchute est reconnue comme un problème majeur dans le processus de désintoxication. Si un soutien est disponible, ma réponse serait de consulter un professionnel, un conseiller en toxicomanie ou un psychologue, un psychiatre. Cela dépend donc de ce qui est disponible pour chacun. Mais l'action vaut certainement mieux que l'inaction, car s'il y a des inquiétudes, et si la personne a des inquiétudes et qu'elle est prête à les reconnaître, alors le plus tôt sera le mieux.
Une personne peut avoir un problème de dépendance sans que cela soit clairement visible. Alors, comment détecter les signes d'une addiction? Selon les experts, certains signes de dépendance comprennent des changements dans les habitudes sociales. Par exemple, s'éloigner de la famille, des amis et des activités pour utiliser une substance ou s'engager dans un comportement peut indiquer une dépendance. De plus, négliger ses rôles et responsabilités tels que le travail, l'école ou les obligations familiales. Également, utiliser une substance tout en sachant qu'elle cause un préjudice physique ou psychologique à soi-même. Être incapable d'arrêter de prendre une substance, même en voulant réduire ou réguler son usage ou après avoir essayé à plusieurs reprises. En outre, mentir sur ses activités, ses absences, ses habitudes de consommation et trouver des excuses pour des comportements inhabituels. Si vous reconnaissez certains signes dans vos habitudes ou chez un proche, veuillez contacter un spécialiste. Le navire hôpital de la marine chinoise, le Peace Ark, est en tournée dans 13 pays, principalement africains, offrant des soins de santé gratuits aux populations locales. Récemment, il était amarré au large des côtes de l'Afrique du Sud, où la province du Cap Occidental connaît un retard de 80 000 interventions chirurgicales. Vicky Stark en parle dans ce reportage relaté par Thierry Kaoré.
Plus de 3000 personnes ont profité des soins médicaux gratuits offerts par le navire hôpital de la marine chinoise appelé Arche de la Paix alors qu'il était à quai dans le port de Table Bay au Cap pendant une semaine.
J'ai appris l'arrivée du navire sur les médias sociaux et la radio. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit venu ici pour nous aider parce que notre gouvernement, je ne pense pas qu'il fasse assez pour les questions de santé.
Seulement 16% des Sud-Africains peuvent s'offrir des soins de santé privés. La plupart des habitants se rendent dans des établissements financés par le gouvernement qui manquent souvent de ressources et où les patients en attente d'une intervention chirurgicale sont nombreux. À bord, des spécialistes de services de santé militaire sud-africains ont travaillé avec plus d'une centaine de membres du personnel du navire. En outre, des infirmières et des médecins du navire sont intervenus dans plusieurs hôpitaux publics du Cap pour des interventions telles que des opérations de la cataracte.
Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Siméon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle
dans le processus de guérison. Et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise, mais aussi plus efficacement contrée. En plus, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas